9h, 10h, Voix au chapitre avec Samia Messaoudi sur Beurre FM.
Bonjour à tous, bonjour à toutes, merci d'être à l'écoute de Beurre FM. Comme chaque dimanche, c'est Voix au chapitre, le plaisir de vous retrouver chaque semaine. Merci de votre fidélité hebdomadaire. Bonjour Nadia Troubi-Safsaf.
Bonjour.
Merci d'être là ce matin. Et bonjour Fatiha de Gouraya.
Bonjour.
Vous êtes au rendez-vous ce dimanche matin et l'une et l'autre, vous allez nous parler de Enfance abandonnée, une enquête auprès des enfants des rues. C'est le titre de votre ouvrage. Il vient de paraître aux éditions Jean-Claude Lattès. Vous présentez tout d'abord Nadia Atroubi-Safsaf. Vous êtes journaliste, on va le dire. Vous êtes rédactrice en chef du Courrier de l'Atlas. Vous avez publié de nombreux ouvrages qui nous a donné l'occasion de nous rencontrer à chaque fois à Beurre FM. Et c'est important puisque ce que vous abordez dans vos livres sont souvent des sujets à la fois historiques, un véritable travail de mémoire hein, sur les deux précédents ouvrages. Et celui-ci n'est pas historique, il est plutôt contemporain pour le coup puisqu'il est question d'une enquête auprès des enfants des rues. J'y reviendrai avec tout ce que veut dire cet engagement que vous portez dans votre écriture à la fois littéraire et essayiste, on va le dire comme ça. Et au travers aussi votre rédaction, le Courrier de l'Atlas. Vous présentez aussi Fatiha de Gouraya. Vous êtes militante, déterminée et tout à fait dans l'engagement autour de ces enfants des rues à Paris, dans le 20e arrondissement, dans le 18e aussi. On y reviendra. Et vous avez fondé une association importante qui porte justement l'engagement que vous avez autour de la protection, en tout cas la défense et accompagner ces enfants des rues aujourd'hui à Paris en fondant une association SOS,
migrants mineurs,
voilà. Et c'est de ça qu'il est question, justement. Voilà pour vous présenter dans ce livre « Enfance abandonnée, une enquête auprès des enfants des rues ». C'est à la fois une rencontre, l'une et l'autre. Vous vous êtes rencontrés autour de cette enquête. Vous nous présentez un peu comment s'est opéré ce travail journalistique et d'enquête, justement, Nadia Troubi-Safsaf.
Alors, je crois que le livre, d'abord, il naît aussi d'abord d'une volonté de rendre visibles ces jeunes, jeunes mineurs, hein, pour lesquels on a beaucoup de clichés, autour desquels il y a beaucoup de clichés. Ouais. Et je pense que le point de départ, c'est quand même Fatiha qui parle du sujet, parce qu'il y a eu plusieurs articles de presse et qui ne sont pas satisfaisants, qui sont toujours à charge.
On y reviendra comment les rendre visibles.
Et, voilà, et elle en parle à un ami, qui en parle à un autre ami éditeur, et voilà, et c'est comme ça que les choses se mettent en place, on se rencontre et on essaye de voir comment on peut travailler ensemble et comment on peut raconter cette histoire, mais vraiment en partant du terrain, en ayant... Voilà, c'est vraiment des observations. Il y avait aussi des questionnements sur la manière de raconter, mais tout ça, après, on va développer avec Fatiha. Mais vraiment, le point de départ, c'est le travail de Fatiha sur le terrain.
En France, à un moment donné, ils ont quitté le Maghreb, ils ont quitté d'autres territoires aussi, après un long périple, hein, on le sait bien, ici à Beurre FM, en tout cas, on a l'occasion souvent de parler des parcours de l'exil, des parcours de l'errance, puisqu'il est question d'errance, là, pour ces jeunes mineurs. Ils ont même un intitulé, peut-être administratif d'ailleurs, hein, les mineurs isolés, enfin, vous le développerez. Et c'est de ça que vous racontez de manière humaine. Je pense qu'il faut tout de suite le dire, qu'il y a beaucoup d'humanité dans l'écriture et dans les témoignages, quand on sait aussi la difficulté qu'ont les gens à témoigner de leur histoire, de leur vécu, encore plus difficile. D'abord parce que vous l'avez dit, Nadia Troubi-Safsaf, quand les journalistes veulent les questionner, ils sont souvent sur la défensive. Donc, il y avait ce travail avec vous, Fatiha, autour de... vous avez la connaissance, vous avez le terrain. Alors vous, comment vous êtes arrivé à ce terrain, justement, pour rencontrer ces jeunes qui se livrent et que vous accompagnez depuis quelques années déjà.
Alors moi, je me suis engagée auprès des ce qu'on appelle maintenant les mineurs non accompagnés.
Les MNA, c'est l'administration. MNA. C'est l'administration qui les nomme ainsi.
Oui, enfin c'est juridiquement ça a été posé comme ça, même dans un cadre européen. Et avant, on les appelait les mineurs isolés étrangers. Donc moi, j'ai démarré cet engagement auprès des mineurs isolés étrangers en 2014. C'est une année où il y avait beaucoup de mineurs isolés étrangers qui étaient arrivés d'Afrique et d'Afghanistan. Et petit à petit, en fait, j'ai été assez choquée et frappée, en fait, hein, de l'état dans lequel se trouvait l'état de précarité, de détresse dans lequel se trouvait l'ensemble des mineurs non accompagnés, puisque ils étaient à la fois mineurs et isolés, et dans une situation où ils étaient sans repère, sans repère, c'est-à-dire sans accueil, sans abri. Et donc, on avait mis en place avec un ensemble d'organisations, que ce soit des syndicats ou des associations un peu traditionnelles dans l'accueil des réfugiés, des actions de militantisme auprès de la mairie de Paris, hein, pour pouvoir militer en faveur de l'exercice de ces droits. Parce qu'en fait, c'est vrai que tout mineur isolé étranger, dans un cadre européen, est considéré normalement comme un enfant. Un enfant lambda qui a les mêmes droits qu'un enfant français. Sauf qu'en réalité, son parcours, avant d'accéder à la protection sociale de l'enfance, donc l'aide sociale à l'enfance, il va être semé d'un tas d'obstacles où il va devoir, en tant qu'enfant, c'est-à-dire sans assistance, sans représentant légal, sans un adulte accompagnateur, prouver que c'est vraiment un enfant. Et parfois sans ses papiers, parfois sans avoir la possibilité de verbaliser son parcours, en étant un peu déstabilisé dans le cadre d'un entretien d'entrée au niveau du département. Et donc certains échouent en fait à cette première porte d'entrée, qui est la seule porte d'entrée en fait. Excusez-moi. Et donc, il y a un tas d'associations qui se retrouvent vraiment avec des jeunes sur les bras et qui doivent, en fait, réaliser des recours devant la juge ou le juge des enfants. Et là, ça prend du temps. Et donc, ça fait, il y a un minimum de 6 mois où ils sont, en fait, livrés à eux-mêmes dans la rue. Et petit à petit, donc, j'ai développé un peu une expertise sur ce public-là. Et j'en suis venue à la question des mineurs maghrébins, qui est, on va dire, à part pour moi.
Voilà. Le à part renverra à la discrimination, sans doute, il me semble, puisque vous avez évoqué effectivement le statut de l'enfant, qui n'est pas le même pour ces enfants mineurs et maghrébins, puisque on y verra sans doute une particularité à la fois violente, hein, au travers les contrôles aux faciès, qui sont de plus en plus nombreux, et puis au travers aussi le fait que on reste plus longtemps quand on est jeune maghrébin, voilà, pour un délit, que quand on n'est pas jeune maghrébin. Nadia Atroubi-Sapsa, vous, dans cette enquête, vous vous êtes rendue donc avec Fatiha dans des quartiers, donc à la Goutte d'Or, dans les centres de rétention. Expliquez-nous comment fonctionne un centre de rétention où vont aller les jeunes quand ils sont interpellés violemment et conduits dans des centres de rétention, dont celui de Vincennes.
Alors, en principe, les mineurs ne devraient pas y être. C'est une entorse à la loi. Mais comme le disait Fatia, justement, le droit n'est pas respecté. C'est ça, le drame de ces jeunes, c'est qu'on ne respecte pas la loi. La loi, elle dit qu'on doit donner protection aux enfants. C'est la Convention des droits de l'enfant.
La Convention des droits de l'enfant.
Ensuite, comme en fait on considère qu'ils sont majeurs, d'ailleurs il y a un terme qui a été créé qui est mijeur, pour dire ni majeur ni mineur, et en fait il n'y a pas de présomption de minorité qui est respectée, mais on considère d'office qu'ils sont majeurs dès qu'il y a un délit ou qu'on suspecte qu'il y a un délit, c'est pas forcément qu'ils ont commis un délit, hein. C'est-à-dire qu'ils sont de toute façon suspectés, là dans le cas de Morsine,
de Marcel, parle,
il n'a pas commis de délit. Mais il est coupable d'être un jeune mineur dans un endroit où il se passe un délit. Donc forcément c'est lui, et on va lui accoler des alias qui vont le rendre majeur, et de ce fait on va l'enfermer dans un centre de rétention administrative qui, encore une fois, n'a pas vocation à accueillir
des mineurs.
Et donc voilà, donc j'ai pu rentrer sans déclarer que j'étais journaliste. Alors bon, c'est vrai que c'est un peu touchy comme sujet, mais c'est pas le seul mineur qui y est. C'est-à-dire qu'on n'a pas de chiffres, puisque de fait ce sont des choses qui ne sont pas dites, puisque de fait ce sont des choses qui sont cachées, et c'est ça aujourd'hui qu'on essaye aussi de dénoncer à travers le livre, mais à travers aussi tout le travail militant de Fatia, c'est de dire que d'abord, avant d'être des migrants, ce sont des enfants. vraiment, vraiment, s'il y a une phrase à retenir, c'est que ce sont d'abord des enfants avant d'être des migrants. Donc, ils n'ont pas leur place dans un centre de rétention où il n'y a rien pour eux. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, ils n'ont pas école, ils sont pas, il n'y a pas d'éducateurs qui viennent les voir, ils sont livrés à eux-mêmes. Les gens qui sont enfermés dans un CRA, ils sont livrés à eux-mêmes. Ils sont désœuvrés. Je veux dire, il y a, déjà qu'ils ont les traumas de l'exil, ils ont le trauma de la séparation. Là, ils se retrouvent encore dans
et le trauma aussi de se partir et comment ils partent, les conditions dans lesquelles ils partent.
Oui, et puis là, ils ont le trauma de l'enfermement en étant des jeunes. Enfin, donc vraiment, pour moi, je trouve qu'il y a une faute de l'État. C'est une faute de l'État.
On reviendra évidemment sur les responsabilités politiques, institutionnelles de cette mise à l'écart, à la relégation de ces jeunes enfants mineurs. Peut-être un mot sur qui peut leur rendre visite dans les centres de rétention. Les associations peuvent aller dans les centres de rétention, parce que souvent on dit que dans les centres de rétention, c'est des associations, la Croix-Rouge, la CIMAD et autres organismes qui peut aller voir les réfugiés, justement, en tout cas les gens qui sont dans les centres de rétention.
Alors, deux choses. Il y a dans les centres de rétention des associations spécialisées dans l'accès aux droits pour tout arrivant, tout primo arrivant, j'allais dire, dans un centre de rétention qui va essayer en fait de faciliter les recours, parce que les délais sont très très courts en fait, pour interrompre une obligation de quitter le territoire français ou une interdiction de revenir sur le territoire français, etc. Donc tout le monde n'a pas un numéro de téléphone d'un avocat très compétent et très disponible pour casser une décision de police, puisque c'est souvent une décision qui est prise de manière complètement arbitraire de la police suite à un contrôle au faciès, dans le métro ou dans des points stratégiques type gare. Donc ça, ce sont des associations qui ont été mises en place par l'État. Et deuxième chose...
On va y revenir parce que on va se retrouver dans un instant, parce que c'est important de rappeler justement tout le fonctionnement administratif que vont subir les jeunes dans ces centres de rétention. On vous retrouve dans un instant.
Voix au chapitre revient dans un instant. Beurre FM, 9h-10h, Voix au chapitre avec Samia Messaoudi.
Je rappelle que je reçois ce dimanche matin Nadia Atroubi-Safsaf et Fatiha de Gouraya et nous parlons de Enfance abandonnée, une enquête auprès des enfants des rues. C'est le titre de leur ouvrage, il vient de paraître aux éditions Jean-Claude Lattès. Nous avons parlé dans une première partie un petit peu de comment l'une et l'autre, ensemble, vous aviez mené cette enquête auprès des enfants des rues. Fatiha de Gouraya, vous êtes fondatrice de l'association SOS Migrants Mineurs et on parlait avant la pause, vous nous évoquiez justement les dispositifs un petit peu administratifs qui étaient mis en place ou peut-être peu mis en place pour accueillir les enfants des rues. Ils se retrouvent dans les centres de rétention alors qu'ils ne devaient pas y être, vous en parliez. Les enfants n'ont pas leur place dans ces centres de rétention et pourtant ils y sont. Comment les en faire sortir? Quelle juridiction il y a, ou en tout cas quelle possibilité, quel recours on peut avoir pour qu'ils en sortent, vous, les associations, justement?
Alors, en tout cas, donc, j'expliquais qu'il y avait des associations qui étaient spécialisées dans la défense des droits des étrangers au sein même des centres de rétention. Donc, il y a quand même, on va dire, une petite zone de droit au niveau de ces centres de rétention, même s'il y a beaucoup à redire, notamment sur les conditions d'enfermement. Ça reste quelque chose de... Ça reste l'enfermement, ça reste la prison.
La prison.
Ils n'ont pas forcément commis un délit avant de rentrer dans ce centre de rétention, puisque en général ils vont en prison s'ils ont commis un délit. Il y a la possibilité pour n'importe qui, doté d'un titre de séjour ou d'une carte d'identité française, en tout cas d'un papier en règle, de visiter n'importe quelle personne qui est retenue dans ce centre de rétention, en fait. Donc c'est vrai que nous, comme on a déjà connaissance en fait de pas mal de jeunes depuis leur arrivée. Donc là, je vais parler des jeunes marocains depuis leur arrivée en 2016, parce qu'il y a eu un petit contingent assez important qui est arrivé de mineurs marocain qui était particulièrement jeune, dont la moyenne d'âge a fait
11 ans, 12 ans,
voilà,
c'est ça.
Mais on va dire que la moyenne d'âge tournait autour de 13 ans par rapport à la moyenne d'âge, on va dire moyenne de 16 ans par exemple, de l'ensemble des mineurs non accompagnés qui sont accueillis sur le territoire francilien. C'est ça qui fait qu'en fait on les a on s'est intéressé en particulier à ce public. D'abord parce qu'il y avait une curiosité de ma part de savoir comment des enfants d'un âge aussi petit pouvaient se retrouver seuls dans la rue, dans des quartiers minés quand même par, on va dire, de la violence, dans des quartiers qui sont classés zones de sécurité prioritaire. Et qu'est-ce qui a été prévu par l'État, justement, pour ces jeunes-là, et pourquoi, en fait, ils ne rejoignaient pas les dispositifs classiques où ils n'étaient pas repérés, en tout cas, par des acteurs institutionnels publics, puisque normalement ils sont sous la responsabilité de l'État français.
Nadia Atroui-Safsaf, dans votre enquête, ces enfants que vous avez rencontrés dans ce 18e arrondissement, Paris-Goutte d'Or, un quartier dit où il y a une diversité d'immigration, une diversité d'histoire aussi, d'histoire sociale. Comment vous êtes allé à la rencontre d'eux? Et effectivement, avec la complicité, j'allais dire, du Fatah. Mais en même temps, comment ils se livrent, ces jeunes?
Ils se livrent pas.
Ils se livrent pas. Il faut du temps pour raconter. Ils sont méfiants des journalistes.
Oui, ils sont méfiants.
Il y a tout ça.
Mais en fait, je suis pas allée les voir en leur disant raconte-moi ta vie. À chaque fois,
on dit jamais ça. Non, c'est difficile, évidemment. Non,
déjà, c'est difficile même en tant que journaliste. Mais on peut dire qu'on a l'habitude de l'exercice de l'interview. Vous et moi, on est toutes les deux journalistes, on le fait. Mais là, c'est pas la même démarche. Et c'est vrai que, d'ailleurs, je le dis dans le livre, qu'il y a des moments où je devrais aller plus les voir et je vais pas leur poser des questions directes, où je les regarde, je les observe et tout, parce que pour moi, il y avait une volonté de le respecter et de leur redonner une dignité que je trouve que les journalistes ne respectent pas. C'est-à-dire que, en fait, on leur demande de livrer leur intimité toujours comme ça, comme si on leur pose des questions qu'on poserait pas à d'autres personnes ou à d'autres enfants. Des enfants franco-français, j'ai envie de dire. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme un peu ces touristes qui prennent en photo des enfants noirs en Afrique ou en Asie et qui se disent « Ah, c'est génial, regardez, ils sont mignons, ces enfants. » Mais on ferait jamais ça en France, de prendre en photo des enfants dans la rue. Donc, il y avait la même démarche d'être respectueuse. Donc, c'est par bribes, par...
Vous vous racontez aussi, peut-être?
Oui.
Si vous posez des questions, ils peuvent...
Voilà, il y a un truc d'échange. Pour moi, c'était un exercice inédit. Et à la fois de suivre Fatia, c'est pas le genre de livre que j'ai l'habitude de faire. Donc, et à la fois de suivre Fatia, et à la fois d'aller à la rencontre des jeunes. Mais en même temps, je vous dis de pas arriver avec mes gros sabots et en posant des questions. C'était compliqué. Vraiment, c'était de l'observation et à chaque fois des bribes et essayer de les revoir. Alors, j'y suis souvent allée avec Fatia, mais j'y suis aussi retournée toute seule. Et c'est vrai que c'est pas la même chose toute seule non plus. Dire que finalement, ils m'ont laissé les approcher parce qu'ils m'ont vu avec Fatia.
Voilà, c'est ça.
Parce qu'ils m'ont dit, ah, mais toi, on te connaît. T'es la copine de Fatia. Sinon, il n'y aurait pas eu cette possibilité de revenir aussi souvent dans le quartier et de regarder sans que ça pose question. Et puis, il y a aussi
la méfiance du journaliste aussi.
Oui, mais il y a aussi la proximité sociale.
Culturelle, oui, absolument.
Culturelle,
oui.
On a les mêmes, repères sociolinguistiques. Et les mêmes repères, voilà. Et puis, je pense qu'ils ont senti aussi qu'il y avait du respect de ma part et que, à chaque fois, je leur ai dit que j'étais maman. Et du fait aussi que je sois maman, je pense que ça les rassure. Mais comme en Fatia, parce que moi je lui disais tout le temps Fatia, mais on dirait que t'es leur maman. Parce que je pense qu'ils voient aussi en Fatia une figure un peu maternelle. Et on les dépeint souvent comme des gens qui... Et un des commissaires, la commissaire avait dit ça dans une réunion publique, en disant qu'ils n'avaient pas de hanen, ils n'avaient pas d'empathie. Ouais. Alors qu'au contraire, moi ce que j'ai vu, c'est vraiment des jeunes qui ont de la tendresse et qui ont envie d'en donner et qui ont envie d'en recevoir. Et même entre eux, moi j'ai vu de la bienveillance Moi, mais vraiment loin de tous les clichés qu'on peut lire dans la presse. C'est-à-dire que qui s'inquiètent
les uns les autres, oui, les bien uns, sûr.
Il y en a qui viennent voir Fatia en me disant, tu sais, il y a un tel, il est pas bien. Est-ce que tu peux aller le voir? Est-ce que tu peux appeler machin? On l'a pas vu depuis 3 jours. Tu vois? Moi, ça m'a vachement touchée, ça, parce que on est devenu une société tellement individuelle que je le dis souvent à Fatia que ce livre, il m'a beaucoup. M'a beaucoup remué. Pourtant, j'en ai écrit des livres et tu sais, vous savez à quel point, sur combien de sujets, puisqu'on les a partagés ici, sur des sujets qui sont forts, porteurs. Ouais. Mais c'est celui qui m'a le plus pris aux tripes. Alors, je ne sais pas si c'est parce que je suis maman, je ne sais pas. Mais regarde, même là, de l'évoquer, ça me donne envie de pleurer parce que je ne comprends pas qu'en France, on laisse des enfants dehors. Vraiment, je n'arrive pas à comprendre comment on peut arriver à cette situation. Et j'ai dit de nombreuses fois mon admiration à Fatia de gérer, de voir comment elle gère ça depuis 8 ans.
Oui, voilà, des années, Fatia, que vous êtes engagée, déterminée. Vous baissez jamais les bras?
Non.
Non.
Non, franchement, non.
En lisant toute cette partie où justement vous racontez votre vie de femme engagée, hein. Ouais. Précédemment, vous étiez déjà dans d'autres associations, dans une autre association. Ouais. Vous aviez en vous cette envie d'être, d'aider l'autre, d'aider les autres. Et il s'est trouvé que c'était, pour le coup, depuis plusieurs années, ces enfants des rues. Mais pourtant, on reviendra dans une dernière partie de notre rencontre ce matin. Le politique et les responsabilités sont pesantes puisque elles n'existent pas. C'est en ça que je me permettais de vous dire, peut-être qu'à un moment donné on baisse les bras, on n'en peut plus, quoi. Ils sont dans la rue, il y a que nous qui portons ça, et c'est pas à nous de le prendre en charge. C'est pas à des militants, à des associations. C'est alors, aussi à des responsabilités politiques.
Alors c'est vrai que moi je baisse jamais les bras. Mais c'est vrai que j'ai des coups de rage, j'ai des coups de colère, mais il faut que je souligne quand même que je suis pas seule. C'est-à-dire que, j'ai fondé cette association-là, mais j'ai été extrêmement aidée, d'abord par tout un réseau de militants avec lesquels je travaille, beaucoup avec des avocats, parce que on souligne très peu le rôle des avocats, mais il y a des avocats qui donnent énormément de leur temps libre finalement et qui sont pas si bien payés que ça en matière de droit des étrangers et en matière de droit de l'enfance. Donc j'ai fait d'excellentes rencontres avec des cabinets d'avocats même très reconnus et qui consacrent une partie de leur activité comme ça pro bono à la défense des enfants étrangers qui interviennent directement, voire même sur le terrain avec moi, pour certains. Après, j'ai des politiques aussi qui m'ont soutenue. Et enfin, la diaspora algérienne. Alors, la diaspora algérienne de la Goutte d'Or joue un rôle clé. Finalement dans l'accueil de ces enfants, puisque c'est eux en fait qui ont été en première ligne en fait avec ces enfants et qui donc ont joué un peu un rôle de vigilance, d'alerte, que ça soit les commerçants mais aussi les jeunes un peu de la rue qui ont l'habitude un petit peu des problèmes avec la police, avec la justice, etc. Et donc ils ont quand même beaucoup compté sur la communauté algérienne, en fin de compte, qui est quand même assez forte
dans ce
18e, c'est-à-dire autour de Barbès et la rue de la Goutte d'Or. En fait, voilà.
Enfance abandonnée, une enquête auprès des enfants des rues, c'est le titre de l'ouvrage qui vient de paraître. Les invités de ce dimanche matin, Nadia Atroubi, Safsaf et Fatiha de Gourayane, nous en parlent passionnément et avec détermination. On les retrouve dans un instant.
Voix au chapitre revient dans un instant. Beurre FM, 9h-10h, Voix au chapitre avec Samia Messaoudi.
Poursuivons notre rendez-vous. Je rappelle que je reçois ce dimanche matin Nadia Atroubi Safsaf et Fatiha de Gouraya. Et nous parlons de « Enfance abandonnée, une enquête auprès des enfants des rues ». C'est le titre de l'ouvrage qui vient de paraître aux éditions Jean-Claude Lattès. Alors, parler des enfants des rues, nous l'avons entendu au cours de cette émission avec vous, mesdames. C'est rappeler le mal-être, la difficulté qu'ont ces enfants des rues de sortir de cette situation, hein, puisque est-ce qu'il y a des dispositifs qui sont mis? Il y a bien évidemment votre engagement, Fatsera, avec les associations, votre volonté, votre détermination, mais il y a aussi des responsabilités institutionnelles, politiques. Il y a aussi l'engagement des avocats, vous en avez parlé. Peut-être ajouter sur ces dispositifs juridiques, Nadia Troubi, si vous voulez ajouter quelque chose sur les avocats dont parlait Fatsera. Et après, on parlera du politique et...
Non, mais ce que j'ai trouvé très intéressant justement dans la démarche de l'association SOS Migrants Mineurs, c'est justement qu'ils utilisent vraiment la voie légale, c'est-à-dire que tout est très carré, toujours il y a des recours, c'est appuyé, ils suivent vraiment la voie de
droit,
la voie juridique, et ils vont au bout des recours, ils portent les dossiers, et quand ils prennent un jeune, ils le suivent jusqu'au bout, et ça, moi j'ai trouvé ça très admirable, surtout que vous êtes engagé. Avec autour de beaucoup de jeunes, et qu'à chaque fois il y a de nombreux avocats. Ça aussi, Fatia a réussi à constituer un réseau d'avocats qui donnent de leur temps, comme elle le disait tout à l'heure, pour défendre ces dossiers. Et ça, vraiment, je trouve que c'est important de le souligner, parce que les autres associations, les petites, hein, moi j'ai une petite association, souvent on est démunis sur ces questions de droit, et que là c'est très important de savoir accompagner juridiquement ces gamins, parce qu'en fait c'est là où le problème, le drame de ces jeunes aussi, c'est que leurs dossiers souvent sont mal montés quand ils sont pris par des associations qui ne connaissent pas ces sujets-là, ou qui sont accompagnés par des éducateurs qui méconnaissent le droit autour de ces questions d'asile. Et donc c'est vraiment important qu'ils soient bien entourés. Et on le voit comme les situations inextricables de jeunes qui auraient pu être mis sous protection dès leur arrivée en France et qui ne le sont pas parce qu'ils n'ont pas été conseillés ou ils ont été mal conseillés. Et ils se retrouvent dans la rue alors qu'à 13 ans, ils auraient pu tout à fait être pris en charge par l'ASE. Sauf que, d'ailleurs, à un moment donné, Fatia me le racontait dans une des interviews, un des jeunes dans l'attente à République qui a 13 ans et qui n'est pas pris en charge parce que, en fait... On n'a pas écouté son histoire, et que quand il va au département de Seine-Saint-Denis, on le rejette. Donc vraiment, j'insiste sur l'aspect légal et droit qui est vraiment fondamental. Ça, c'était pour moi, c'était important de le dire.
Et sur les responsabilités politiques au niveau local, dans les arrondissements de Paris, dans le 18e notamment, il y a une écoute, il y a une... Dans le livre aussi, vous êtes allé à Marseille, vous avez vu aussi comment ça se passait ailleurs. Je crois que là, j'insiste... peut-être sur cet aspect politique, parce que le juridique est la légalité, et le politique est la responsabilité. Donc l'un et l'autre sont, pour la défense de ces enfants des rues, sont essentiels, il me semble.
Alors, quelque chose qui m'a frappée, c'est vraiment le fait que personne ne veuille parler du sujet. D'habitude, les politiques sont prompts à répondre aux questions, à avoir des interviews, des entretiens. Généralement, ça va très vite. Ils ont envie de parler, ils ont envie de... Voilà. Mais alors, pour ce sujet-là...
Ils sont frileux.
C'est pas frileux. Soit ils ont pas donné suite. Et pourtant, j'ai été tenace. Hein, j'ai beaucoup réécrit, j'ai beaucoup appelé, j'ai beaucoup relancé. C'est un sujet qui leur faisait peur. Je pense en veille d'élection.
En vrai, oui.
C'est un sujet qu'ils ne maîtrisent pas. C'est-à-dire qu'en plus, le peu de fois où j'ai pu discuter, ils ne connaissent pas la réalité de terrain. C'est-à-dire que je pense qu'on leur donne des notes, des choses, mais ils confondent les sigles, ils confondent les. Souvent, ils savent même pas. Ils ne connaissaient même pas les dispositifs d'évaluation, ils ne savent pas que chaque département a son dispositif. Enfin, c'est quelque chose qui est de l'ordre du compliqué pour eux. Et en même temps, c'est un sujet sur lequel il y a pléthore de rapports. C'est ça qui est étonnant. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un rapport au Sénat, il y a une mission parlementaire, il y a énormément de rapports. D'ailleurs, on a l'impression qu'il n'y a pas de coordination, puisqu'il y a plusieurs rapports, et on a l'impression que personne ne les lit, en fait. Parce que tout est mis dedans, tout est dit.
Les Donc, chiffres, on pourrait y trouver une solution. Après avoir lu le rapport, on pourrait trouver une solution.
Il faut du courage politique.
Bien sûr. Et justement, peut-être encore quelques minutes pour en parler. Les dispositifs politiques, vous les attendez, vous, par exemple, à votre association
On a beaucoup plaidé pour un accueil de jour. Dans le quartier de la Goutte d'Or, on ne l'a jamais obtenu. Nadia a été témoin de situations où les jeunes prenaient pour zone de répit et de repos, de repli, des laveries
ou des squats,
des laveries publiques, les squats aussi quand ils se font chasser, parce que après il y a eu un dispositif spécial mis en place par la police sur une année pour justement chasser les mineurs marocains du quartier de la Goutte d'Or. Mais en tout cas, nous nous, on s'est dit que, en fait, plus ils étaient dans la rue, en contact éventuellement avec des délinquants, plus ils étaient la proie, ils étaient des proies, ils étaient aussi peut-être facteurs de nuisance aussi pour les riverains. Et donc, pour nous, c'est invraisemblable que dans un quartier comme la Goutte d'Or, on n'a pas un seul point d'accueil et d'orientation pour tous les nouveaux arrivants maghrébins. Parce que tous les jours, il y a des Algériens et des Marocains qui arrivent à la Goutte d'Or.
Et vous avez, c'est difficile de comptabiliser le nombre de jeunes, évidemment, mais vous en accueillez beaucoup au sein de votre association ?
Alors nous, on a été en contact avec à peu près, on va dire, plus de 400 mineurs non accompagnés depuis 2016. Et ils ont comme particularité par rapport à d'autres mineurs non accompagnés d'être très mobiles. Du coup, ce sont des jeunes qui vont faire des allers et retours dans différents pays d'Europe. Mais sur l'instant T, on va dire qu'ils peuvent se retrouver dans une centaine, par exemple, avec différents clans. Mais comme vous l'avez bien souligné, le politique a eu tendance en fait à fermer ce qu'ils appellent tout le temps les points de fixation des jeunes ou des réfugiés, tout simplement. Mais le problème, c'est que fermer un point de fixation parce qu'il y a des plaintes de riverains ou parce que c'est pas entretenu ou parce qu'après il y a des réseaux qui arrivent, des choses comme ça, je veux bien, mais quelle alternative on propose en matière d'accueil? On a vu par exemple que pour les Ukrainiens, ça a été très rapide. Voyez? Pour les Ukrainiens, j'ai été absolument stupéfaite de l'accueil qui a été mis en place, de la réactivité des associations. On voit même des affiches, c'est très bien pour eux, hein. On voit des affiches qui sont collées dans des gares, c'est-à-dire dans les endroits où ils arrivent, avec des itinéraires, toute une signalétique, etc. Chose qu'on ne verra jamais pour un public, on va dire, qui n'est pas européen.
Et donc, c'est deux poids deux mesures d'une certaine manière, hein, quand même.
Oui, et il y a quand même, c'est mesurable, c'est chiffrable, ça nécessiterait une étude, mais en tout cas, il y a de la discrimination, une discrimination forte, alors, vis-à-vis des Maghrébins. Comment ça s'explique ? Je ne vais pas rentrer là-dedans, mais en tout cas, ce qu'ils ressentent, eux, c'est un rejet. De la France.
Alors qu'ils attendaient un accueil de la France, je disais dans des témoignages, ils voulaient apprendre le français et puis avoir un métier ici, s'installer ici, dignement, quoi. Ils parlent de dignité aussi, ils parlent d'être accueillis.
Ils sont fascinés, oui, par la France. Oui. Ils sont fascinés par la France, ils sont fascinés par l'Europe, par les cultures étrangères. Ils se vantent toujours de dire, bah, je sais parler 4-5 langues, voilà. Mais ils vivent au quotidien un rejet, qui est un rejet de la société civile quand ils sortent un peu des quartiers où il n'y a pas d'étrangers, ou un rejet institutionnel quand ils doivent passer par des hôpitaux ou des choses comme ça, où a priori ils portent en eux des stigmates qu'ils rejettent, et là on peut pointer la responsabilité de la presse.
Infatigable, vous êtes Fatia de Gouraya. Vous êtes au quotidien toujours dans ce 18e arrondissement, la Goutte d'Or?
Oui, je suis toujours dans cet arrondissement pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'il y a pour moi c'est ma communauté en fait j'ai développé en fait des liens en fait avec les ce qu'on appelle les jeunes Haraga.
Ils avaient 13-14 ans il y a 5
voilà,
ans.
Voilà, et maintenant ils sont maintenant, exactement, donc voilà. Du coup, il y en a, c'est devenu des vrais amis. Il y en a, c'est devenu des bénévoles de mon association, voilà. Et qui accueillent les nouveaux arrivants. Voilà, exactement. Voilà. Et du coup, ils m'aident à exercer mes missions au quotidien, et j'ai noué un vrai lien avec les jeunes Haraga que je trouve vraiment adorables, et avec qui j'ai envie de poursuivre, parce que je pense que c'est une thématique qui va être amenée à devenir problématique, je pense, pour le gouvernement français.
Et vous, Nadia Troubi-Safsaf, ce livre terminé, vous êtes dans d'autres projets, infatigables vous aussi, des projets d'écriture comme ça. Ce livre est une enquête, une dénonciation, un constat d'abord, une dénonciation. Vous êtes toujours sur cette ligne
oui,
d'écriture engagée.
Je disais hier à mon éditeur que j'allais prendre une pause. Parce que vraiment, il m'avait
bouleversé.
Ouais, je sais pas si je te le dis à chaque fois, Fatia, mais je te le redis là, publiquement. À chaque fois, je pense qu'il faut que je laisse du temps. Parce que j'ai pas envie aussi d'avoir juste fait le livre et plus rien.
Mais vous retournerez du côté de la goutte d'or, j'imagine.
J'ai proposé à Fatia de pouvoir continuer des choses autour des jeunes parce que j'ai pas envie qu'ils se sentent utilisés non plus.
Merci à toutes les deux. Merci infiniment pour votre engagement, votre détermination. Enfance abandonnée, une enquête auprès des enfants des rues, c'est ce livre que vous avez fait ensemble. Il vient de paraître aux éditions Jean-Claude Lattès. Au revoir à tous, au revoir à toutes. Merci d'être à l'écoute de Beurre FM. Comme chaque dimanche, j'envoie au chapitre et pour toutes les autres émissions. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre rendez-vous. D'ici là, portez-vous bien.
Retrouvez Voix au chapitre tous les dimanches de 9h à 10h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.